puisque nous nous trouvons à l'approche du 9 Av, le jour le plus triste du calendrier juif, jour de Tisha B'Av, nous avons trouvé utile de rapporter ici l'essentiel d'une ancienne drasha, d'un ancien discours prononcé par Maran Rabbeinu Avadé Yosef Zecher Tzadik Kadosh Livracha, par notre maître le Rav Alav Shalom, un jour du 9 Av, juste à l'approche de la destruction du Gouche Katif, de tous les villages juifs qui existaient dans le Gouche Katif et qui ont été donc abandonnés, rendus à nos ennemis, très malheureusement, et en conséquence au triste et regrettable accord d'Oslo. Et donc je vais m'exprimer ici au nom de notre maître. Je vais citer ici les propos qu'il a lui-même prononcés. Je cite. Le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, d'après la halakha, il est interdit d'étudier la Torah pendant toutes ces 25 heures du 9 Av, car les paroles de la Torah réjouissent l'homme, comme il est dit, Pikudei Hashem Yesharim Mesameh Elev. Les ordonnances, les lois d'Hashem sont droites, elles réjouissent le cœur, comme ça c'est marqué dans Tehillim. Et en effet, celui qui étudie la Torah ressent une élévation, une satisfaction. C'est pour ça que durant toute la durée du 9 Av, il est interdit d'étudier la Torah. De même, un homme, Chas v'shalom, bar minan, qui est véritablement en deuil, qu'Hashem nous en préserve, lorsqu'il perd l'un de ses proches sur lequel il doit prendre le deuil, durant les 7 jours de deuil, il lui est interdit d'étudier la Torah, comme pour le 9 Av. Mais il lui est permis d'étudier les règles relatives au deuil, les halakhot de Avelut, ou bien la Gemara de Maseret Moed Katan, à partir de Daf Chaf Alef Amouda Alef, à partir de la page 21a, car à partir de cet endroit de la Gemara, toute la Gemara traite des règles de deuil. Ça, il a le droit d'étudier pendant les 7 jours de deuil, et c'est aussi ce qu'on a le droit d'étudier pendant la journée du 9 Av. Et lorsqu'un homme étudie les lois de deuil, cela ne lui procure aucune joie, et de ce fait, c'est permis. De même, ce que l'on a le droit d'étudier aussi le jour du 9 Av, c'est le Midrash sur le livre de Echa, des Lamentations Echa, ils ont été écrits par le prophète Irmiya, qui traite entièrement de la souffrance du peuple d'Israël. Il y est relaté comment Nebuzaradan, Saratabahim, Mahshemo, est entré dans le Beth Amikdash, dans le temple, dans le premier temple. Nebuzaradan, c'était le général du roi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, Melech Babel. Et lorsque Nebuzaradan est entré dans le premier Beth Amikdash, avant que les Babyloniens le détruisent, il a vu sur le sol du Beth Amikdash, il a vu du sang qui bouillonnait et qui remuait de manière miraculeuse sur le sol du temple. Et ça remuait comme de l'eau de source. Alors Nebuzaradan, le général babylonien, il a demandé aux Juifs qu'est-ce que cela signifiait. Ils n'ont pas voulu lui répondre la vérité au début, mais ils ont fini par lui répondre. À la fin, il a insisté, comme on va le voir dans la suite. Ils ont fini par lui répondre, eh bien, ce sang, c'est le sang d'un prophète d'Israël, le prophète Zecharia ben Yehoyada. Et depuis qu'il a été assassiné il y a 100 ans, son sang remue encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce qu'ils lui ont répondu. Et avant de poursuivre, il faut quand même comprendre dans quelles circonstances ce prophète, ce Navi Zecharia ben Yehoyada a été assassiné. Dans quelles circonstances il est mort? Il y avait une femme du nom de Ataliahu. Cette femme était la mère de Ahaziahu, roi d'Israël. Cette femme, elle avait un esprit diabolique. Elle envisageait d'exterminer tous les descendants de Malchut Bet David, de la royauté du roi David. Et effectivement, elle les fit tous assassiner. Il n'en restait personne excepté un bébé du nom de Yoash. Ce Yoash, c'était un bébé de 2 ans. Et sa nourrice, elle s'appelait Yehosheva. C'était l'épouse de Yehoyada Kohen Gadol. Lorsque Yehoyada il a entendu que cette maudite Ataliahu voulait assassiner aussi le petit Yoash, qui était aussi un descendant de Malchut Bet David, il appela son épouse Yehosheva et lui dit: prends l'enfant Yoash, rentre-le dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth HaMikdash, cache-le là-bas. Il ne viendra jamais à leur esprit de venir le chercher à un tel endroit. Et ainsi, il aura la vie sauve. Le Kodesh HaKodashim, comme tout le monde le sait, est un endroit redoutable du Beth Amikdash, puisque seul le Kohen Gadol pouvait y pénétrer qu'une seule fois dans l'année, le jour de Yom Kippour, et encore il rentrait là-bas en tremblant de peur. Il ne savait pas s'il allait ressortir vivant ou mort. Yehoyada, il a promis à sa femme Yehosheva qu'il ne lui arriverait rien, ni à elle, ni au bébé. Effectivement, Yehosheva, la femme de Yehoyada, Kohen Gadol, elle a pris le bébé Yoash, elle a emmené dans le Beth Amikdash, elle a rentré dans le Kodesh HaKodashim, elle a élevé là-bas, elle n'en est plus jamais ressortie, jusqu'à bien plus tard. Et Ataliahu, cette folle de Ataliahu, n'a pas pensé à chercher le bébé dans un tel endroit. Au bout de quelques années, Yoash avait grandi et il devint un enfant intelligent et très instruit. Et Yehoyada vint le trouver et l'a couronné comme roi d'Israël, puisque c'était l'héritier de la dynastie de Malchut Beth David. Tout le peuple d'Israël s'est réjoui, car la descendance, ils ont vu que la descendance du roi David, finalement, n'a pas été complètement exterminée, il reste encore quelqu'un. Ataliahu, elle a entendu l'événement et s'est rendue au Beth Amikdash. Le pasouk dit là-bas, je cite, « Elle regarda et vit ce spectacle, le roi debout sur l'estrade selon l'usage, les chefs et les trompettes acclamant le roi, toute la foule manifestant sa joie en sonnant de la trompette. À cette vue, Ataliah déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Elle a compris qu'il venait de se passer un putsch, il venait de se passer une révolution. À ce moment-là précis, des sortes de policiers très, très balèzes, très robustes, qui sont arrivés, ils ont sorti Ataliah de l'enceinte du Beth Amikdash et l'ont exécuté. Et sont enfin débarrassés de cette Rishaa qui avait exterminé tous les descendants de Malchut Beth David. Telle fut donc la fin de Ataliahu. Et Yoash régna en étant guidé par Yehoyada Kohen Gadol qui lui disait « Ser Hashem, agis pour la Torah et les mitzvot ». Comme le pasouk dit, Yehoash fit toute sa vie ce qui plaît à Hashem, conformément aux enseignements que lui avait donné Yehoyada Kohen Gadol. Et le fils de Yehoyada, qui n'est autre justement que notre prophète Zecharia dont on a parlé au début de nos propos, qui était prophète comme son père, devint le gendre du roi Yoash, qui épousa sa fille. Quelques années plus tard, après la disparition de Yehoyada Kohen Gadol, les ministres du roi, les ministres de Yoash, c'était des Rishaim, des grands Rishaim, des grands impies, s'adressèrent au roi et lui dirent « Majesté, a-t-on déjà entendu une chose pareille ?» Si grandiose, si extraordinaire. Quoi, quelle chose? Ils lui ont dit, quand tu étais bébé, tu as grandi dans un endroit aussi sacré que le Kodesh HaKodashim. Tu étais un bébé. Donc forcément, par la force des choses, tu y as fait des besoins naturels. Et il ne t'est rien arrivé dans un endroit aussi sacré, dans un endroit aussi Kodesh. Et où avons-nous entendu une chose pareille? Même le Kohen Gadol qui est entré dans le Kodesh HaKodashim, le seul uniquement le jour de Yom Kippour, avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, avant Yom Kippour, le Kohen Gadol il rédigeait son testament à Zavami. Il savait pas s'il allait en ressortir vivant ou mort. Parce que le Kodesh HaKodashim est un lieu si sacré, parce que c'est le lieu de résidence de la Shekhina, la présence divine. Et lorsque le Kohen Gadol n'était pas suffisamment méritant, il mourait sur place en y entrant. On l'attachait même par avance à une corde à son pied, afin que l'on puisse le sortir s'il mourait, Chas v'Shalom. Mais toi, Majesté, ils lui ont dit, donc les ministres qui parlent à Yoash, toi, Majesté, tu as grandi dans un tel endroit durant plusieurs années et il ne t'est rien arrivé. Cela ne signifie qu'une seule chose. Ça veut dire que tu es un dieu. Tu n'es pas un être de chair et de sang ordinaire. Il faut te servir comme on sert un dieu. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Ils ont commencé à lui tourner la tête. Ils ont commencé à l'embrouiller. Et lorsqu'il a entendu ça, il s'est laissé embrouiller, Yoash, malheureusement. Il a été satisfait des paroles de ses ministres. Et à partir de ce moment-là, on a donné un ordre, on a diffusé immédiatement dans tout Israël que dorénavant, toute personne voyant le roi Yoash doit se prosterner devant lui. Le Navi Zecharia, le gendre du roi Yoash, qui était aussi devenu Kohen Gadol à la suite de son père Yehoyada, le prophète Zecharia, quand il a entendu tout ça, il a eu beaucoup de peine. Il a constaté que son beau-père, le roi Yoash, s'était écarté de la bonne voie. Il dit maintenant, il se fait prendre pour un dieu. Il s'est dit, quoi, je vais me taire devant ça. Ce jour-là, c'était Yom Kippour qui tombait un Shabbat. Et Zecharia, le Navi, qui était Kohen Gadol, après avoir effectué le service de Yom Kippour dans le temple pour la capara d'Israël, pour expier les fautes d'Israël. Après Yom Kippour, Zecharia se plaça sur un endroit élevé et s'adressa au peuple en les réprimandant sur leurs actes. Il leur dit, « Comment avez-vous pu abandonner Hachem ? Vous avez pris un être de chair et de sang pour en faire un dieu ?» Le roi Yoach, il a entendu la réaction de son gendre. Il a ordonné immédiatement d'exécuter son gendre, le prophète Zecharia. Et plusieurs hommes du peuple qui sont venus, ils ont commencé à jeter des pierres en direction de Zecharia, ils l'ont tué. D'ailleurs, il y a environ un siècle, environ 100 ans, il y avait un dibouk. Un dibouk, c'est l'esprit d'une âme qui n'a pas de repos, qui n'a pas trouvé de repos. Il y avait un dibouk qui se déplaçait en Pologne et en Lituanie. Et lorsque les Gdolé Ador, les grands de la génération, ont réussi à entrer en contact avec ce dibouk, ont réussi à lui parler, ils lui ont demandé qui il était. Et ce dibouk, là, cet esprit de cette âme, a répondu qu'il était le premier homme qui avait jeté une pierre sur Zecharia et qu'il n'avait toujours pas trouvé de repos jusqu'à présent. Donc ils ont assassiné, Yoach a ordonné qu'on assassine son gendre, Zecharia Annavi, qui était Kohen Gadol. Ainsi, donc, ils ont assassiné le prophète Zecharia après son service dans le temple pour le bien du peuple d'Israël, un jour de Yom Kippour qui tomba Shabbat. Et c'est pourquoi son sang, on revient maintenant au début de nos propos, son sang bouillonnait et remuait encore sur le sol du Beth Amikdash. Ils avaient beau essayer de laver le sol du temple, son sang continuait à bouillonner et à remuer de façon miraculeuse. Donc Nebuzaradan, le général babylonien du roi Nabucodonosor, pénètre dans le temple, il voit ça et il demande à Israël, c'est quoi ce sang qui bouillonne ? Au début, ils n'ont pas voulu lui dire la vérité. Ils lui ont répondu, c'est le sang des animaux, des bêtes que l'on offre dans les corbanotes, pour les sacrifices. Il a dit, ah bon ? Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuzaradan ? Il a fait apporter des bêtes et il les a fait égorger. Mais il a constaté que le sang des bêtes n'était pas de la même couleur que celui qui remuait au sol. Il a dit, vous vous moquez de moi, vous êtes des menteurs. Il ne s'agit pas du sang des bêtes. Si vous ne me dites pas de qui est ce sang, je vous ferai arracher la peau avec des peignes de fer. À ce moment-là, Israël lui ont répondu. Ils lui ont répondu en lui racontant toute l'histoire qu'on a racontée et comment le prophète Zecharia avait été assassiné il y a environ 100 ans et que chaque fois qu'ils essayaient de laver le sang continuait à bouillonner sans cesse. À ce moment-là, Nebuzaradan, il a déclaré, ah bon, moi, je consolerai Zecharia. Qu'est-ce qu'il a fait, ce rachat ? Il a fait amener des enfants, Tinokot Shel Bet Rabban, des enfants écoliers qui apprennent la Torah auprès de leur maître. Il les a fait amener là-bas dans Beth Amikdash et il les a fait égorger au-dessus du sang de Zecharia. Mais malgré tout, le sang, il continue à bouillonner. Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuzaradan ? Il a fait amener les 70 hachamim du Sanhedrin, les 70 sages du grand tribunal suprême qui siégeait dans le Beth Amikdash, et il les a fait égorger. Mais le sang continua à bouillonner. À ce moment-là, Nebuzaradan s'est exclamé, « Zecharia, Zecharia, j'ai tué les meilleurs d'entre eux. Veux-tu que je les tue tous pour toi ?» À ce moment-là, le sang il s'est arrêté. À ce moment-là, le sang s'est arrêté de bouillonner, de remuer. C'est ce qui s'est produit par nos nombreuses fautes. Et le roi Yoach, comment il a fini ? C'est lui qui a ordonné de mettre à mort son gendre, Zecharia Annavi Kohen Gadol. Comment il a fini ? Un an plus tard, on l'a attaché et on l'a tué. Il n'a eu droit ni à Olam Hazeh, ni à Olam Habba, ni à ce monde-ci, ni à le monde futur. Comment ce Yoach-là, il a oublié qui l'avait amené à ce monde-ci, qui l'a sauvé, qui lui a sauvé la vie. C'est Yehoyada, le père de Zecharia, le père de celui qui est devenu son gendre et qui l'a ordonné d'assassiner. Yehoyada à Kohen, c'est lui qui lui a sauvé la vie. C'est lui qui l'a fait cacher dans le Kodesh HaKodashim. Il a oublié tout ça, il a oublié toutes les bontés que Yehoyada à Kohen Gadol il a fait avec lui. Et voilà ce qu'il a même fait à son fils. Il a ordonné d'assassiner son fils, le fils de Yehoyada à Kohen Gadol, Zecharia Annavi, qui était même son propre gendre. C'est pour cela que depuis le ciel, on a rappelé sa faute, il a été lui aussi tué. Les pleurs de Tisha B'Av, les pleurs du 9 Av, quel cœur ne peut pleurer pour tous les malheurs traversés par l'âme Israël au fil des siècles. Le dernier en date, qui est aussi le plus lourd, celui que personne n'explique, celui que personne n'ose expliquer, la Shoah. La Shoah, qui a été perpétré par les maudits allemands, les maudits nazis. Combien d'hommes tzaddikim, combien de tzaddikim, combien de tamid hachamim, combien d'hommes justes, érudits dans la Torah ont été assassinés par ces rishaim-là. Chacun doit s'affliger sur Yerushalayim, s'affliger sur le meurtre des hommes pieux d'Hachem. Comme c'est marqué, et ils ont, comme c'est marqué dans Tehillim, ils ont livré le cadavre de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes pieux adorateurs aux bêtes des champs, leur sang, ils l'ont répandu comme l'eau autour de Jérusalem. Personne ne leur donne la sépulture. Par nos nombreuses fautes. Combien de gdolim, combien de géonim dans la Torah, combien de géants de la Torah ont été martyrisés par les maudits nazis. Il y en a eu combien et combien. Le gaon de Cloisenburg, le gaon de Satmar. Combien ont souffert par ces rishaim. 1 million d'enfants kedoshim, d'enfants saints, ont été assassinés là-bas avec cruauté. Ici, le Rav Maran, Rabbeinu Avodah Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, il raconte ce qu'il a vécu dans les années 40, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Eretz Israël. Le Rav était en Eretz Israël. Il dit, ici, en Eretz Israël, Hachem nous fit un miracle. Hachem nous laissa la vie sauve. Le Rav dit, je me souviens de ces jours. Ce rachat-là de Erwin Rommel. Erwin Rommel, c'était le général d'infanterie de Mahashemo Vezichro d'Adolf Hitler. Le Rommel est arrivé en Égypte avec l'Afrika Korps. Il était avec l'armée allemande d'infanterie. Il est arrivé jusqu'à l'Égypte. Il est arrivé jusqu'à El Alamein, qui est à côté d'Alexandrie en Égypte. Il dit, le Rav, et nous étions, nous, en Eretz Israël, nous étions terrorisés. Eretz Israël s'appelait à l'époque la Palestine, était sous mandat britannique. Et nous savions que ces Rishaim-là, ces impies, possédaient toutes sortes d'instruments de mort. Et ils avaient des avions, ils avaient des tanks, ils avaient des chars, ils pouvaient arriver ici jusqu'à Jérusalem et tous nous tuer en un revers de main. Et le Rav raconte, il dit, je me souviens de la peur dans laquelle nous étions à cette époque. Dans quelle souffrance nous vivions. Nous traversions la ville de Jérusalem en passant parfois par le marché, le Shouk Aravim, le marché des Arabes. Et les Arabes se tenaient à la porte de leur magasin et ils nous narguaient. Ils nous disaient, patientez, ils nous disaient en arabe, patientez. Bientôt Hitler va arriver, on vous égorgera et on prendra tout votre argent. On leur avait rien fait, voilà ce qu'ils nous disaient. Alors, tout le monde se mit à prier à Jérusalem. Nous allions, le Rav raconte, nous allions au Kotel avec le grand Rabbi Yaakov Hades, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui était un très très grand tzadik, un homme droit dont toute la vie ne fut remplie qu'uniquement que de Torah et de Yirat Shamayim, de Torah et de crainte du ciel. Rabbi Yaakov Hades se mettait à prier et pleurer, et nous pleurions tous. Le Rav avait, dans ces années-là, il avait une vingtaine d'années, et nous pleurions tous. Des fleuves de larmes furent versés. Nous ne savions pas de quoi allait être fait le lendemain. C'est ainsi que fit également le Gaon, Rabbi Zalman Sorotskin, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Et il a amené avec lui tous les Ashkenazim de la ville. Et on se tenait les uns face aux autres. Nous pleurions et ils pleuraient. Mais Ishtabach Shemo La'ad, Shel HaKadosh Baruch Hu, que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Lui qui écoute la prière de son peuple Israël avec pitié. HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inspiré ce Rasha'a, Mah Shemo Vezichro, ce Rasha'a de Hitler. HaKadosh Baruch Hu lui a inspiré à déclarer la guerre à la Russie à ce moment-là. Et on sait très bien qu'à partir de l'instant où Hitler a déclaré la guerre à la Russie, c'est là qu'il a commencé à perdre la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que la guerre a pris un autre tournant. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hitler? Il a envoyé immédiatement un télégramme à Rommel, qui était en Égypte, à El Alamein. Il lui a envoyé un télégramme, il lui a dit, viens vite, laisse tout tomber et viens. La Russie déclara la guerre et des millions, on sait très bien, des millions sont tombés d'un côté comme de l'autre, si bien du côté russe que du côté allemand. Il y a eu des millions et des millions de morts. Mais nous, Hachem nous sauva. Nous, les Bnei Israël, les Juifs qui étaient en Eretz Israël, HaKadosh Baruch Hu nous a sauvés, comme c'est marqué dans le Passouk. Mais sur la montagne de Tzion, un débris subsistera et sera une chose sainte. Ishtabach Hachem Olahad, que le nom d'Hachem soit glorifié. Là, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'on dit dans Al-Naharot Bavel, le Mizmor qu'on lit à Tisha'a Be'av, Sham yashavnu gam bachinu bzochrenu et Tzion. Là, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en souvenir de Tzion. Nous savions que personne d'autre qu'Hachem ne pouvait nous sauver de la main de Hitler. Les Anglais ne valaient rien à côté d'Hitler. L'armée anglaise était complètement déroutée à côté de l'armée allemande. il y a uniquement Hachem qui a donné l'inspiration à ce rachat de Hitler d'aller faire la guerre à la Russie, et ainsi il nous a laissé tranquille. Nous sommes restés en vie. On était à un cheveu d'être exterminés. Les Juifs d'Eretz Israël, les Juifs de l'endroit qu'on appelait la Palestine à l'époque, étaient à un cheveu d'être exterminés comme les Juifs d'Europe. Combien devons-nous remercier Hachem pour avoir laissé en vie son peuple Israël? Ce ne sont que les prières qui ont été utiles. Lorsque nous, Sfaradim et Ashkenazim, ensemble, on a prié pour qu'Akadosh Baruch Hu sauve l'âme Israël et Yoshev Betzion qui habitait Eretz Israël. C'est ainsi que chacun doit agir, s'associer à la souffrance de la collectivité. Dit le Rav, ce discours a été prononcé donc en l'année 5765, l'année 2005 du calendrier civil, à l'approche du démantèlement du Gouche-Katif, malheureusement. Et le Rav fait un appel. Il dit, nous sommes alertés à présent par notre situation, car les habitants du Gouche-Katif sont dans une grande détresse. Donc c'était en 2005. 30 ans après avoir planté, labouré, construit, réalisé, on les chasse de leur terre, on les abandonne. Il y avait là-bas, il faut savoir quand même qu'il y avait quand même 40 synagogues et centres d'études dans le Gouche-Katif. Ils devront tous les détruire afin que les Arabes ne les transforment pas en mosquées. Des synagogues construites au prix de beaucoup de sang et d'argent. Elles vont toutes être détruites par nos nombreuses fautes. Que pouvons-nous dire? Dit le Rav. Il cite l'enseignement de nos maîtres dans la Gemara Brachot, Daf Yudbet Amud Aleph. La Gemara dit là-bas que toute assemblée se trouvant dans la souffrance, chaque groupe du Ham Israël qui se trouve dans la souffrance, chaque juif a le devoir de prier pour eux, même s'il n'est pas concerné directement par cette souffrance, eh bien il doit prier pour eux. Ils sont dans une terrible souffrance. Nous devons prier Hachem afin qu'il annule ce décret. La Gemara rapporte là-bas que Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, dit à Israël, marqué dans le Passouk, de moi-même, d'ailleurs, je n'aurai garde d'offenser Hachem en cessant de prier pour vous. Israël était à ce moment-là dans une souffrance, dans la souffrance. Et le prophète Shmuel leur dit, si je ne prie pas pour vous, je commets une faute envers Hachem. Ne pas prier, c'est faire une avera. Ne pas prier pour l'autre, c'est commettre une avera. Je n'aurai garde d'agir ainsi, dit le prophète Shmuel. Le Rav s'adresse donc à l'assemblée. Il leur dit, nos amis sont dans la souffrance et nous restons assis paisiblement. Quel repos pouvons-nous avoir? Il faut prier pour eux. Et il cite un passouk, ne crains rien, Altirei tola'at Yaakov, ne crains rien, vermisseau de Yaakov. De quoi il s'agit ce vermisseau? Le vermisseau dont il s'agit ici, c'est Israël, c'est une image pour Israël. Pourquoi? De même que la principale force du vermisseau réside dans sa bouche. Ainsi, la principale force du Ham Israël réside dans leur bouche en priant. C'est pourquoi il est interdit de rester les bras croisés et de les laisser tout détruire, Hasv Shalom, sans la moindre contrepartie, sans le moindre accord. Et il termine le Rav en disant, il n'y a pas un jour où je ne les mentionne pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la prière de la collectivité. Nous allons prier et supplier Hachem, et Hachem fera ce qui est bon à ses yeux.